l'intervention de Patrick Rébollard. Patrick Rébollard est maître de conférence à l'université de Nanzan à Nagoya au Japon. Il vient donc extrait du Japon pour nous parler des effets d'intime dans l'écriture réticulaire. Il est usager d'Internet depuis 1995 et il modère la liste Litor du groupe Hubert de Falaise à Paris 3.
Effet d'intime dans l'écriture réticulaire. Alors, chaque mot a son poids. L'écriture réticulaire, c'est le réticule que constitue l'Internet, donc il y a une forme d'écriture à l'intérieur de ce réticule, ou même qui le constitue. Et puis, des effets d'intime, parce que moi, personnellement, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'intime. J'en ai beaucoup cherché. Et je ne sais pas si j'en ai trouvé. Je ne sais pas si ce que j'ai trouvé est de l'intime au sens où vous, chacun d'entre vous, le penserait ou d'autres personnes. Il y a un problème de ce côté-là. Dans ce sens, j'ai laissé une phrase en haut à droite. Je cherche certaines gouttes d'eau dans tous les océans réunis. Mais c'est dans le certaine que réside toute la problématique. Alors, l'intime dans les blogs, que l'on parle de blog ou du web en général, on peut rappeler à l'ensemble de l'actualité de l'Internet, il s'agit avant tout de publication directe, de mise à disposition du public sans contrôle éditorial d'un tiers, dans le respect des lois, entre parenthèses, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est la question technique de la médiatisation, mais pour l'utilisateur, pour le blogueur, ce n'est pas vraiment une question, ce serait plutôt une réponse. Donc, on va passer directement à l'intime. L'intime, en revanche, c'est plus coriace, comme on va le voir. A priori, tout le monde voit ce que c'est, on en parle abondamment, et c'est bien là le danger, car de près, c'est beaucoup moins évident. Pensant que je savais ce que c'est, j'ai commencé directement, il y a plusieurs mois, à recherche de cette communication. Je suis allé à la pêche de l'intime avec Google, le moteur de recherche, et on s'aperçoit vite que c'est un peu comme l'anguille. Ça grouille de partout, mais on n'est pas foutu d'en attraper une. Le mot intime a 14 millions d'occurrences dans l'Internet. C'est du direct, hein. C'est pas des copies d'écran. Donc c'est passé à 200 000, hein. 14 millions 200 000. Vous voyez, on a gagné 200 000 depuis hier. Ça, c'est les problèmes de Google. Entre 70 000 et 75 000 occurrences dans des blogs. Uniquement des blogs. Hein. Ça, c'est selon Google Blog Search. Donc, c'est une sous-partie de Google qui ne travaille à la recherche que dans les blogs, ou ce qui est comptabilisé comme blog. Et là, on a un chiffre. 71 960 ici. Avec des choses qui sont nouvelles, hein, que je n'ai pas vues encore hier en révisant pour aujourd'hui. Et le programme d'aujourd'hui, qui se trouve ici dans une page, je ne sais pas de qui, non, notre adresse. L'adresse n'est pas la bonne. Hop, ça doit marcher. Voilà, et en effet, on se trouve ici. Je vais laisser un petit commentaire aussi. Donc d'un côté 14 millions, de l'autre côté 70 000 ou 75 000, de toute façon ça échappe tout à fait à l'entendement de chacun d'entre nous. Les usages du mot sont très variables, il suffit d'ouvrir les 20 premières pages proposées par Google pour voir qu'on y donne à peu près n'importe quel sens. Le mot intimité, qui serait un petit peu plus spécifique, il a moitié moins d'occurrence. Voilà, donc on est à 6 480 000. Ce qui n'est pas que dans les blogs, hein, il y a le film Intimité qui apparaît en premier. Et un sens pas spécialement plus précis lorsqu'on ouvre les pages. Hein. Donc la recherche du mot lui-même et de son sens à travers ses emplois est quand même une gageure à peu près impossible. Alors il y a également des sortes d'annuaires, des annuaires de blogs, sur des plateformes de blogs par exemple, qui ont souvent une catégorie journal intime. Alors on peut y aller et puis cliquer sur journal intime. Mais lorsqu'on regarde ces blogs, on voit que, même les plateformes elles-mêmes, on voit que les catégories sont nommées a priori par les personnes qui créent ces plateformes et que les personnes qui inscrivent un blog choisissent eux aussi a priori de le mettre dans la catégorie journal intime, alors que peut-être ils parleront d'autre chose. Qu'est-ce que j'avais là-dessus après. Donc là encore, on pourrait en ouvrir quelques dizaines, des journaux intimes sur des plateformes de blog, et le plus souvent, on va trouver beaucoup de banalités, alors ça ne tient pas spécialement à l'intimité, et j'y trouve plutôt ce que j'appelle une simulation de ce que doit être l'intimité, c'est-à-dire en répondant à des stéréotypes, les gens créent des blogs et écrivent des éléments de leur vie qui doivent être intimes, mais est-ce que c'est vraiment ça? Alors moi j'y trouve surtout beaucoup de clichés, avec une envie de participer au monde en marche, les nouvelles technologies, etc., et au mouvement des blogs. Alors il y a par exemple le site journalenligne.com qui nous propose un annuaire avec quelques explications. Voilà, chronique d'une psychopathe. Dépotoir de mes idées. Journal à quatre mains. Ça, c'est dans un annuaire, hein, sur une plateforme. Une autre plateforme qui s'appelle le journal intime. Alors ici, la présentation est très différente. Les blogs de cette plateforme sont présentés dans la colonne de gauche et dans la partie principale, les derniers billets postés sur les blogs des personnes qui apparaissent sur la page d'entrée du site. Alors ici, donc, c'est Nanou 1979 qui a posté son dernier billet récemment, et puis ensuite c'est Diaz, Mindy, etc. Donc une présentation très différente de celle de tout à l'heure. Également un autre site qui s'appelle Journal Secret, qui propose, lui, des statistiques. Alors, ce n'est pas la page d'accueil, hein. La page d'accueil est beaucoup plus normale, mais il y a une page de statistiques, ce qui est assez unique. Je n'ai pas trouvé d'autres plateformes qui présentent des statistiques. On voit que sur cette plateforme de blog, entre 52% et 20% des participants, des membres, ont entre 14 et 25 ans, ce qui situe aussi l'âge de création du blog. Le nombre d'hommes est de 2295, le nombre de femmes est de 17312. Je ne connais pas du tout la fiabilité de ces chiffres, hein, ils sont donnés pour ce qu'ils sont. Le nombre de journaux visibles, 7535, et de journaux privés, 2211. Voilà. Et puis, sur la liste des pays, d'où les personnes postent leur blog. Ensuite, quelques courbes qui ne sont pas extraordinairement causantes. Voilà, on peut avoir les statistiques de 2 années passées, ce qui nous permet aussi de dater la plateforme elle-même. Ce site doit dater de 2003. Après cela, nous avons Journal Intime. Voilà, ça c'est sur un site beaucoup plus, on va dire, dynamique et moderne, qui s'appelle auféminin.com, où là aussi, on a une catégorie journal intime. Alors voici les derniers, non, c'est la liste des blogs dans cette catégorie, avec les noms des personnes et les filtres. Et je me suis aperçu là aussi en ouvrant des pages que si on ouvre la catégorie qui s'appelle humeur-réaction, ici, eh bien on a d'autres blogs qui ont été inscrits par les personnes dans cette catégorie humeur-réaction, qui n'est pas la même que journal intime, et ma foi, ce sont aussi des journaux intimes. Donc les catégories prévues a priori par la plateforme ne sont pas vraiment efficaces. Annuaire de journal intime, également sur le site Overblog. De façon un peu plus classique, c'est-à-dire que l'annuaire est présenté lui-même comme un blog. Voilà. Alors tout ça donne quelque chose de pas fiable du tout. Déjà moi qui ne savais pas ce que c'était que l'intime, lorsque j'ai ouvert toutes ces pages, j'étais encore plus perdu. Voilà par exemple un témoignage, le blog Ma vie, joie et tristesse. La personne écrit « J'ai inscrit le mien dans la catégorie journal intime. Bon, il n'a plus rien d'intime si j'en juge par le nombre croissant de visites quotidiennes, mais je ne m'en plains pas. Cependant pour moi, il reste intime puisque les visites qui m'intéressent sont celles de mes lecteurs favoris que jusqu'à ce jour, personne de mon entourage proche m'a dit l'avoir vu. » Alors, les personnes qui l'intéressent ne sont pas de son entourage proche. Déduire logiquement. Voilà. Comme vous pouvez lire à droite, je n'aurai pas le temps de parler de l'historique des sites hein, sur lesquels on vient déjà de parler, et puis sur lesquels M. Lejeune aurait aussi à dire, et il en a parlé un peu ce matin. Bon, voilà un peu l'état de mon esprit avant de commencer à vraiment écrire cette communication. Alors je récapitule. Dans Google, le mot intime, 14 millions, intimité, etc., vous pouvez lire par vous-même. Je suis revenu donc au problème de la définition, on l'avait évoqué également ce matin, la définition de intime dans le TLF, ça donne ça, le TLF, le trésor de la langue française, qui est en ligne sur Internet. Ici, j'utilise un accès au TLF qui est un accès un peu particulier, qui n'est pas interactif, c'est-à-dire on ne peut pas cliquer sur les mots pour ouvrir une autre page, mais en revanche, on a toutes les parties de définition qui sont en jaune. Je ne sais plus qui avait créé ce petit programme. Voilà. Alors, est intime, vous voyez, il y en a long, hein, quand même, surtout avec le TLF. Voilà, j'ai un peu concentré tout ça. Est intime. Ce qui se situe ou se rattache à un niveau très profond de la vie psychique, bon, on sait que c'est un superlatif de l'intérieur, ce qui reste généralement caché sous les apparences, impénétrable à l'observation externe, parfois aussi à l'analyse du sujet même. Également, qui constitue fondamentalement les caractères propres de tel individu, sa nature essentielle, qui se rattache à ce qu'il y a de plus profond, à l'intérieur, vous voyez les mots en gras, dans le texte, et puis ce que j'écris à la fin. Le point commun à toutes ces définitions, eh bien, c'est ce qui est personnel, intérieur, profond, secret, avec un sens de superlatif. Voilà. On sait que l'appréciation de tout cela dans la réalité est très aléatoire, et il y aura ce que je pense être intime, ce que les autres considèrent, et puis une sorte de doxa ou de bien-pensance de ce que c'est que l'intimité, et qui, historiquement, peut varier beaucoup d'une période à une autre. On en a parlé un peu ce matin. Donc, pour moi, encore une fois, rien là de solide ni de scientifique, si on veut avoir une démarche scientifique. Alors, peut-être qu'il faudrait être sociologue ou anthropologue et passer des mois et des années pour arriver à quelque chose, mais pas en une demi-heure. Il y a également l'approche artistique de la chose, bien entendu. Beaucoup de sites internet et de collectifs d'artistes proposent des choses sur l'intime. Et par exemple, ici, un journal intime, si on veut, qui est fait de tickets, de caisses. Voilà, alors bon, les deux tickets, rochers, ça doit être des rochers Suchard, des horizons herbiques, café express. Alors, il y en a comme ça pas mal de tickets, mais en les regardant de près, je me suis aperçu que les dates ne se suivaient pas toujours. Donc, c'est pas tout à fait dans le bon ordre, c'est un peu factice finalement. Enfin, la proposition est intéressante. Il y a souvent des aliments pour chiens et chats. C'est quelqu'un qui doit avoir un petit compagnon. Voilà. Vous retrouverez tous ces liens dans la communication si vous souhaitez les explorer plus avant. Une autre démarche artistique qui est le Adam Project, que je crois beaucoup de personnes ici connaissent. Parmi les participants... Je vous propose de regarder ce que fait un certain Philippe de Jonquière, qui se trouve là-haut, dans le coin à gauche. Et alors, c'est un protocole que l'Adam Project, avec un certain nombre de propositions que les artistes ont plus ou moins respectées, comme se prendre en photo au lever du lit, prendre en photo une vue de la fenêtre, prendre en photo tout être vivant, enfin, etc. Et lorsqu'on entre, selon les artistes, on trouve des choses totalement différentes, et pour Philippe de Jonquière, des photos et des textes qu'il a écrits à côté, avec, comme souvent chez lui, une démarche spéculaire ou récursive, c'est-à-dire qu'il explique qu'il ouvre un document pour écrire dedans, pour répondre au projet, et ainsi de suite, ou bien ce qui est plus intime, une photo qui le met un peu dans l'embarras vis-à-vis de son employeur. Voilà. Alors, il y a énormément à lire, hein, c'est pas question de voir ça maintenant. Donc, la démarche artiste qui m'intéresse beaucoup, évidemment, dans ce domaine. Alors, de mon côté, la recherche terminologique aussi m'intéresse beaucoup. Je suis allé voir du côté du dictionnaire des synonymes de l'Université de Caen, un outil vraiment extraordinaire que je vous recommande, et qui, pour le mot intime, qui se trouve ici, propose un certain nombre d'équivalents, hein, de pseudo-synonymes, et également un sorte de graphisme qui permet de voir la relation entre les mots. Donc, on retrouve les mots qu'on a dégagés, évidemment, du dictionnaire. Voilà. Alors, j'ai remarqué aussi que beaucoup de gens, dans leur journal intime, utilisaient le mot « impudique » et qu'il avait pour eux le sens de « intime ». Alors que dans le dictionnaire, c'est un petit peu différent. « Impudique » a plutôt des équivalents comme « débauché »,« dévergondé »,« dissolu »,« effronté »,« érotique ». Alors, en effet, un journal intime peut être érotique, mais pas systématiquement « débauché » ou « dissolu ». Enfin, pas tous. Bon, je vais en sauter un peu, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps. Donc, pour un futur, voilà. Alors, ces mots, évidemment, que j'ai choisis comme une première approche, sont très généraux, intimes, impudiques, secrets, profonds, etc. Et ils ont des millions d'occurrences dans l'Internet, donc toute étude est un peu aléatoire. Ces mots étant très généraux, j'ai erré pendant des semaines, selon des logiques plus ou moins hasardeuses, donc pas logique, entre des discours assez peu originaux et globalement, quand même, j'ai fini par comprendre quelque chose, une prise de conscience identique pour des millions de personnes, ça c'est un phénomène évidemment dont tout le monde a entendu parler, et qui est la possibilité de publier directement des informations sur les problèmes et les questions de son existence personnelle. Donc je vous bien de publier directement. Avec les logiques d'interrogation sur la difficulté de dire les sentiments et les sensations, et donc des phénomènes d'écriture directe et métalinguistique, en essayant de se comprendre soi-même aussi. Cette publication se fait un peu comme une pulsion, et évidemment n'a pas les caractères littéraires que l'on voudrait pour une publication en livre. D'ailleurs, il n'en est pas question, sauf dans des cas extrêmement rares. Je crois qu'en France, à l'heure actuelle, il y a deux livres issus de blogs qui ont été publiés en livre. Deux ou trois. Au Japon, il y en a un peu plus, mais c'est guère... c'est pas évidemment comparable à des millions de blogs. Quand j'ai fait le bilan, je n'avais pas grand-chose, je n'avais pas beaucoup avancé. Alors, ce que j'ai vu de l'intime, c'est pour beaucoup ce qui se dit intime, hein, d'où mon titre de « Effet d'intime ». Et ce qui est dit intime par quelqu'un d'autre, alors dans la définition du TLF également. Si l'intime est à l'intérieur, quand il est visible ou lisible à l'extérieur, c'est donc que ce n'est plus de l'intime. Ça a été de l'intime, c'est maintenant du cadavre d'intime dans lequel on cherche peut-être... je vous propose le mot intimon. On cherche de l'intimon, un peu comme on ferait les poubelles, hein. Il faut essayer de trier ce qu'il y a dedans. Alors, de mon point de vue, on est dans une aporie de l'intime. C'est-à-dire essayer de dire ce qui est à l'intérieur, c'est le faire sortir, et le faire sortir, eh bien, ça n'est plus à l'intérieur. En y réfléchissant, j'ai quand même compris qu'il y a aussi d'intime ce qui est partagé par un nombre de personnes que l'on dit intime, et on disait aussi que l'origine du terme venait de ça, de commerce intime. Alors, dans la famille, avec des amis, des proches, etc. Donc, un partage intime, ce n'est plus l'intimité personnelle, éventuellement réciproque, appliqué au domaine des lettres. L'intime est ce qui se dit et s'écrit entre intimes, et qui ne doit pas être communiqué à d'autres. L'intime publié l'est donc plus ou moins par trahison du vivant, ou par une sorte de déclassification, de changement de genre, après la mort des personnes. Beaucoup d'écrivains, on le sait, ont demandé que leur journal intime et leur correspondance soient détruits après leur mort, et pour beaucoup, ils n'y ont pas été, ils ont été publiés, et ils constituent une partie du fond du genre intime dans les lettres. Alors, je ne discute pas là-dessus, ce n'est pas un problème de moral. Ce système éditorial suppose une fermeture étanche entre intime et public, une séparation qui doit être une certitude pour celui qui écrit son journal, évidemment, qui n'existe pas dans l'Internet avec les blogs. Ce qui existe, c'est une autre façon de cacher, de se cacher, par la pratique de l'anonymat, puisque une très grosse majorité des blogs et surtout des journaux intimes sont faits, sont produits sous le régime de l'anonymat, avec un pseudo qui est en général suffisamment bien codé pour qu'on ne le connaisse pas, sauf des gens comme moi ou quelques autres qui font un pseudo pour qu'il soit connu. L'écrasante majorité des blogs dits intimes sont en accès libre et se disent intimes sous couvert de l'anonymat. Dire tout de soi sans dire qui l'on est, ni qui sont les autres, en changeant les noms, dans le but de se formuler les choses, d'effectuer une prise de conscience, une distanciation, etc. Dans ces cas, c'est bien le masquage de l'identité réelle qui autorise éventuellement une sincérité réciproque dans les considérations intimes. C'est l'équivalent du bal masqué. Quand on veut juste profiter de l'anonymisation de l'autre sans chercher à savoir qui se cache sous le masque. Mais souvent aussi, dans des cas inverses, les personnes veulent, par sincérité, c'est un besoin qui motive alors leur démarche, garder leur identité réelle pour révéler des choses dites intimes et se mettre dans une situation à risque. C'est donc une démarche tout à fait différente. Dans ce cas d'exhibitionnisme, évidemment, la littérature a déjà beaucoup de personnalités connues. On pourrait citer aujourd'hui Christine Angot, qui joue beaucoup avec cela. Il existe également au Japon un genre romanesque qui s'appelle le Shishosetsu et qui est le roman du moi, c'est-à-dire où les personnes expriment leur vie de façon très crue et très directe, ce qui en général dérange ou crée des scandales pour les autres, mais qui sont quand même beaucoup lus, hein. Tout le monde aime des scandales. Alors c'est là, à mon avis, dans cette apparence véritable des personnes, que l'aporie de l'intime joue complètement. Et on peut passer de l'aporie au pari. Alors je crois que je n'aurai pas le temps de vous montrer ces quelques sites. Vous les regarderez plus tard si ça vous intéresse. Et je finirai sur un exemple. L'exemple du journal intime d'une fille stupide, que j'ai trouvé tout à fait par hasard sur Internet. Et en le lisant, j'ai lu donc des choses tout à fait inintéressantes. Et puis, au détour de certaines pages, de certains billets, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui remuent quelque chose en moi. C'est une sorte d'émotion qui finit par se transmettre. Et j'en ai été le premier étonné. Alors, ce journal intime, voilà, est ici. Il a continué jusqu'à maintenant. Alors, je vais le reprendre à quelle date ? Peut-être au 4 octobre. Voilà, au 4 octobre, je résume ce soir, on est à table, mon père, ma mère et moi. Mon frère pense qu'il est plus important d'être devant son ordi à jouer à Counter-Strike que de venir manger en famille pour faire plaisir à ma mère qui n'a pas la pêche. On mange, on a fini de manger, j'apprends mon espagnol pendant que mes parents mangent. Tout semble aller bien, si on veut. Je m'endors, et c'est là que tout dégénère. Ma mère hurle que si je veux me reposer, je vais ailleurs. Je hurle à mon tour en guise de réponse, et surtout parce qu'elle me gave. Je ne vois pas l'inconvénient que je dorme assis. En plus, je ne suis pas... Alors bon, il faut ouvrir la page pour avoir la suite du billet. On n'a pas le temps de le faire, mais vous verrez plus tard. Alors, on passe au 11 octobre, cure de magnésium. C'est le titre du billet. Enfin, il était temps de faire une cure de magnésium pour avoir plus la forme. Demain, j'ai contrôle depuis 3 ou 4 jours. J'ai contrôle, hein, ça veut dire je suis lycéenne. Ma cousine de nouveau pète les plombs. Ça, c'est le 11 octobre. Si je faisais un journal consacré à ma cousine, que je vais appeler Cicelle, ça s'appelle peut-être Cécile, qui a 25 ans et 2 enfants, etc. C'est très très méchant, hein, sur sa cousine. Après, sa cousine. Le 29 octobre, trop c'est trop, voilà, je vais péter un câble. Il y a 3 semaines, mon père a commencé à être chiant. Alors là, elle raconte l'attitude de son père vis-à-vis d'elle, et elle explique très précisément, enfin, très précisément, moi je comprends bien, que c'est à cause de son travail. Parce que son travail, il travaille dans une banque, est en train de fusionner avec une autre banque. Résultat, ils bossent tous non-stop de 8h du matin à 8h du soir, et des fois, ils n'ont même pas le temps de manger à midi. C'est-à-dire qu'elle est très compréhensible avec son père, même s'il est, entre guillemets, chiant à la maison depuis quelques jours, elle sait très bien pourquoi. Et on a une sorte de crise familiale, sociale, en direct. Alors oui, je sais que c'est difficile, c'est fatigant, etc. Voilà, ensuite elle passe aux majuscules, en utilisant des majuscules, on sait dans l'internet que ça correspond au cri, hein, c'est une façon de parler beaucoup plus fort, voire de crier. Donc c'est là que j'ai pété un câble, tu le fais exprès, pendant que je suis à l'école le soir, tu me gardes, il y a toujours un truc qui passe, là pas, dès que tu rentres, et même en vacances, tu me laisses pas faire ce que je veux. Bon voilà, évidemment. Et lorsqu'on lit la suite, donc on a cette crise familiale qui s'est développée, et le 12 novembre, donc il y a un gros trou entre le 29 octobre et le 12 novembre, elle n'a pas osé écrire, donc ça devait être quand même assez déprimant, et le 12 novembre, le calme est revenu, petite tristesse déprime, enfin, j'aurais voulu crier ça à mon père, où je pense que enfin, on va tout résumer, enfin tu t'es arrêté de hurler. Bien, en lisant ces quelques billets d'une personne qui m'est totalement inconnue, j'ai eu la sensation de toucher l'intime de quelqu'un, et parfois ça ne m'est pas arrivé dans tous les cas où les gens prétendaient écrire de l'intime, parfois avec des beaux discours, mais qui ne convainquaient pas. Alors je passe sur l'analyse, et puis j'arrive à la conclusion. Voilà. Je peux donc à peu près l'expliquer pour ce cas, mais je ne peux pas chercher de cas semblable de façon systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur qui me permet de chercher les blogs qui, à mon avis, sont intimes, selon ma perception de l'intimité. Donc il n'y a pas de modélisation possible pour moi. Il faudrait peut-être repérer une dizaine ou une vingtaine de blogs qui réussissent à me faire croire que j'ai été en contact avec de l'intime, et peut-être on pourrait essayer une sorte de modélisation pour en trouver d'autres. Et encore, on n'aurait là qu'un moteur à mon seul usage. C'est pas très performant quand même. Voilà, il faudrait maintenant une autre demi-heure pour parler de l'importance du dessin, de la photo, bien sûr, des podcasts, c'est-à-dire des enregistrements audio ou vidéo, qui entrent maintenant dans les blogs et qui parfois même les remplacent complètement. Et je vous laisse une petite minute. Est-ce qu'on a le son sur cet ordinateur? Voilà, le blog vidéo de Luciano. On n'a pas le son, hein. C'est un peu dommage, parce que l'épisode que j'ai choisi... Alors, c'est la première fois qu'il parle avec quelqu'un avec la vidéo. Et donc, il se connecte pour la première fois, et donc c'est une jeune femme. Et donc, il se montre, et elle le voit. Et... parce qu'elle rit. Elle rit, mais à ne plus pouvoir s'arrêter, parce qu'elle a vu sa tête. Alors lui, il essaye de... Bon, voilà, il est quand même un peu déçu. Voilà, ça dure une minute, il en publie un ou deux par semaine, je ne sais pas vérifier la fréquence, et ça va être très amusant. Voilà, c'est là-dessus que je finirai, et il y a donc, avec ces nouvelles dimensions, beaucoup d'aventures, de nouvelles aventures pour les chercheurs de l'intime. Merci.
Quelle est l'adresse de
votre
adresse, en fait?
Je vous la donne. Alors, vous utilisez Google, par exemple, et vous tapez Berlol, B-E-R-L-O-L, c'est mon pseudo. Vous arrivez sur l'adresse de mon blog. Voilà, où il y a une photo de l'escalier que vous avez vu à côté, que je suis passé hier. Et au lieu de index.php en haut, vous effacez ça. Et d'autres clear aussi, si vous écrivez BNF, voilà, et le document s'appelle Effet intime 2. Effet intime 2, parce que effet intime c'est avec le texte en blanc, et effet intime 2 c'est avec le texte lisible.
Quelques questions à nos deux intervenants. Il y a des micros qui circulent à nouveau. Qui a des questions?
Ça fonctionne, il faut juste parler. Comment vous traitez ou qu'est-ce que vous faites des faux journaux intimes sur Internet? Je pense en particulier au fameux journal sous le pseudo de Brad Pitt de cheval, qui est censé être un garçon de 15 ans, et ça se voit qu'il n'a pas 15 ans, quoi.
Oui, mais ça fait partie des choses artificielles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui se présentent comme de l'intime, et moi, je n'ai pas l'impression que ça en soit. C'est-à-dire que je vois le côté factice. Alors peut-être parce que j'ai fait des études et que je vois dans les discours quand j'ai l'impression que c'est sincère ou que ça n'est pas. mais on peut rien en faire. D'un point de vue terminologique ou d'index, il suffit que les mots soient employés et ils entrent dans Google. Et ce qui m'inquiète, c'est pour les nouvelles générations, les jeunes qui gobent tout ce qui est marqué dans l'Internet sans réfléchir, et qui vont croire que c'est intime alors que ça ne l'est pas. Je m'inquiète de ce côté-là.
Dans vos travaux, vous avez identifié dès le début, dans ces journaux intimes sur le web, des défauts.
Non, ils ne sont pas tous faux. Il y en a dont on se doute qu'effectivement c'est trop beau pour. C'est trop intime pour l'être réellement, en fait. Donc c'est trop. Ça mime trop tellement le journal que ça n'en est plus un. On sent qu'il est. Oui, enfin, ça me décèle, mais effectivement, on n'est jamais sûr. Et finalement, je ne sais pas si ça a un intérêt de se demander s'ils sont vrais ou pas, sauf quand c'est dans le cadre d'un projet de type autofiction qu'on peut sentir. Mais oui, je pense qu'il y en a.
Moi, j'avais une question aux deux intervenants. Concernant le. L'arrêt ou le fait de cacher. Parce qu'il y a plusieurs années, quand Philippe Lejeune avait organisé un colloque sur médias et récits de vie, il m'avait encouragé à aller voir le site de Jennifer, enfin, il m'avait encouragé à aller en ligne. Et juste avant cette journée, je me suis dit, tiens, je vais retourner voir les sites et voir les personnages, les personnes que j'y avais rencontrées, notamment Jennifer. Jennycam.com qui était à l'époque qui mettait en ligne grâce à une webcam un journal en images. Bon, et Jennifer a décidé depuis décembre 2003 de se retirer. Par ailleurs, quand vous avez cité le site Journal Secret, dans la page d'accueil, il y a une chose très intéressante, outre tout le formatage de l'écriture qui rejoint assez une série d'analyses qui ont été faites sur toutes les normes d'écriture, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on propose aux gens de mettre en ligne leur journal, mais qu'on ne le voit pas. Alors, moi, j'ai envie de vous poser cette question. On voit beaucoup de choses sur le web, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas. Je me dis toujours, c'est probablement sur ça qu'il faudrait enquêter. Est-ce que vous avez pu aller voir un peu derrière l'écran sur ces journaux qui ne sont pas mis en ligne, sur ces décisions d'arrêt? Parce que j'ai cherché un peu, il y a eu un communiqué de presse de Jennifer, mais communiqué de web, plus exactement, et sur cette décision d'arrêter.
Oui, mais effectivement, il y en a certains qui arrêtent, sans doute dépassés par les lecteurs ou par ce qu'apportent les lecteurs à cette écriture. Mais enfin, arrêter un journal est aussi. On dit souvent que le journal. Même le journal papier est une pratique intermittente. Tout le monde n'est pas Claude Mauriac. Donc effectivement, que ce soit sur Internet ou dans un journal papier, un certain nombre de diaristes arrêtent d'écrire leur journal. C'est lié à des activités de crise, c'est lié à un certain nombre de problèmes. Il y a aussi le cas des journaux qui étaient publics, enfin, qui étaient accessibles par Google, et certains diaristes décident au bout d'un certain temps de filtrer l'entrée, de donner l'accès qu'à certains proches, qu'à certaines personnes qui se seront manifestées. Et donc là, on fonctionne dans un cercle, le journal fonctionne dans un cercle d'intimes ou de gens qui le sont devenus. Qui est une forme, oui, de suspension de journal. Mais bon, sur le web invisible et sur ce qu'on ne voit pas, je dirais que si ça ne se voit pas, je n'ai pas forcément envie d'aller explorer, ou si... Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas fait pour l'instant.
C'est un peu contradictoire avec l'esprit du web lui-même, en effet, mais les technologies permettent de mettre des accès par mot de passe. Donc il y a plusieurs types d'usages. À mon université, j'ai ouvert récemment un blog des cours au seul usage de mes étudiants. Et donc ils ont le mot de passe. Et comme on doit respecter absolument les informations sur la vie privée des étudiants, il n'est pas question que d'autres personnes y entrent. Donc pour moi, c'est une démarche radicalement différente de ce que je fais, mais il n'y a rien de ni d'intime, ni d'interdit, ni de répréhensible, quoi que ce soit. En revanche, il y a beaucoup de sites secrets avec des mots de passe. Dans la communauté MySpace, il y a beaucoup d'espaces privés, y compris l'espace des stars, qui n'invite que des personnes très très triées sur le volet. On ne sait pas pourquoi y faire, puisque je ne fais pas partie des personnes d'élite. Voilà, mais je répondrai un peu comme on vient, c'est-à-dire, si c'est secret, ça ne m'intéresse pas beaucoup finalement. Parce qu'il n'y a pas une démarche de vouloir communiquer à d'autres, ou seulement à un petit nombre dont je ne fais pas partie. Et, Le goût que tu manifestes pour voir ce qu'il y a derrière, t'es propre ou sale. Pour les décisions d'arrêt, ça, ce serait très intéressant. Il faudrait faire une énumération, une catégorisation des décisions d'arrêt de blog ou de site. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant.
C'est récurrent, je complète, c'est récurrent cette décision d'arrêter, de ne plus pouvoir alimenter, parce qu'il y a un lectorat quand même derrière et qu'il y a une pression qui est entretenue, et nombreux sont les diaristes qui sentent qu'ils ont finalement peut-être un peu moins envie d'écrire, mais qu'ils ne veulent pas forcément décevoir les lecteurs, et c'est vraiment très récurrent dans l'écriture. Bon, alors je continue, mais on sent que c'est un peu forcé, ou... Et que l'écriture finit par s'effilocher. En tout cas, l'intention n'y est plus, mais que l'arrêt va sans doute arriver. Rares sont ceux pour certains dans les journaux que j'ai étudiés, il y en a certains qui ont commencé en 98. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils se comptent quasiment sur les doigts de deux mains, ceux qui continuent à écrire depuis 98. Donc, oui, c'est des rescapés, oui.
Mais ma question, elle portait évidemment sur la question de l'archivage. Parce que Jennifer, elle portait sur la question d'arrêter, et en même temps, ce qui est spécifique au web, c'est que, en l'occurrence, pour le cas de Jenny, il n'y a pas d'archives, c'est-à-dire que le site a totalement disparu. On n'a plus que des traces sur des blogs ou des sites de viewers, comme elles s'appellent. C'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que la question d'arrêter, oui, on arrête un journal intime, simplement le journal, on peut évidemment le jeter, mais il est de temps en temps encore dans l'étagère.
Oui. Même sur Internet Archive, parce que c'est quand même une époque où
ce moteur va...
En tout cas, enfin, si je puis me permettre, la Bibliothèque nationale de France, dont nous travaillons à expérimenter le dépôt légal de l'Internet, et c'est vrai que nous réfléchissons beaucoup à la capture de tout type de site, y compris les blogs. Une dernière question ? Un de vos intervenants ? Oui.
En France, le fait d'écrire est très marqué par la littérature. Je dis en France parce que c'est peut-être moins fort dans d'autres pays, mais écrire en France et même écrire un journal privé, c'est quelque chose qui est très marqué par l'image de l'écrivain qui est fortement sacralisée dans notre pays. J'ai l'impression, mais j'aimerais avoir votre regard là-dessus, que ce nouveau mode d'écriture peut-être alléger un peu cette image non pas de l'écrivain, mais du scripteur, simplement. C'est une écriture éphémère, c'est une écriture facile, c'est une écriture qui ne passe pas par le truchement d'un éditeur pour être pour être diffusé. Est-ce que vous avez eu aussi cette impression qu'il y avait peut-être une forme d'écriture plus légère et à terme peut-être une désacralisation de l'écriture ?
Avec les blocs, oui, peut-être, mais en même temps, il y a un effet d'accoutumance du diariste à l'écriture et des lecteurs à lire le journal, qui fait que, je lisais hier une entrée dans un journal où c'était un peu ce problème-là, dans lequel il disait que finalement il se rendait bien compte que son écriture était polie, repolie, enfin, peut-être polissée d'ailleurs aussi, et qu'elle était moins spontanée que quand il avait commencé, parce qu'il se rendait compte que il avait envie de donner une certaine image de lui, mais aussi de son écriture et donc de l'acte d'écriture à proprement parler. Donc peut-être que cette image de l'écrivain le rattrape, en fait, c'est ça que je voulais dire, mais au bout de 4 ou 5 en l'occurrence d'écriture sur Internet. Maintenant, avec les blogs, ce qu'on a vu, les extraits qu'on a vus là, sont loin de cette sacralisation de l'écrivain.
Mais non, Aurélien a très bien montré que dans la période des sites, bon, il y a toujours encore des sites aujourd'hui, mais dans la période où les journaux ont commencé sur des sites à partir de 96, 17, 18, il y avait ce mimétisme du cahier, du papier, des instruments d'écriture qui effectivement montraient que les gens voulaient aller dans cette direction. Et avec les blogs ou entre les deux, c'est pas très bien, hein. C'est peut-être aussi un changement de génération des personnes qui écrivent, puisqu'on a vu qu'il y avait les 14-25 ans qui faisaient la grosse majorité des blogs. Il y a en effet un changement, on abandonne les éléments littéraires avec cette possibilité, en effet, d'accoutumance, c'est-à-dire que si on écrit pendant plus de 6 mois ou plus d'un an, on finit par se dire que bon, il se passe peut-être quelque chose, alors on va voir quels sont les codes qui existaient avant et on va les reproduire. Enfin...
Oui, je voulais juste ajouter que, en plus avec les blogs, il y a un effet de la technique qui, à mon avis, empêche le lyrisme ou l'expansion, qui empêche d'avoir une vue globale sur l'écriture, le fait d'avoir à remplir des champs. Ça c'est après une hypothèse sur l'écriture que ça génère ou que ça peut engendrer, mais favorise une écriture peut-être beaucoup plus courte, beaucoup plus sèche en fait, qui est profondément différente en fait. Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose là.
Eh bien voilà que le débat se lance du clavier à l'écran, qu'est-ce que ça change? Donc nous allons poursuivre ces questionnements donc, sous la forme d'une table ronde animée par Antoine Perrault et qui va donc réunir éditeurs et blogueurs pour continuer à évoquer ces questions. Donc, merci à nos deux intervenants et je cède la place à Antoine Perrault et ses invités.